Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, n'est-ce pas une joie profonde pour nous tous de nous trouver à nouveau rassemblés ici pour les ordinations sacerdotales annuelles. Beaucoup d'entre vous sont des pèlerins fidèles qui viennent chaque année partager nos prières, nos joies et nos peines. Mais chaque fois aussi, de nombreux pèlerins viennent pour la première fois. Et cette année, nous avons la joie en particulier d'accueillir un groupe venu du nouveau continent et qui, pour la première fois, assiste à cette cérémonie et prennent connaissance de notre séminaire d'Écône. Je suis persuadé qu'ils retourneront chez eux remplis de consolation, remplis d'une grande joie, remplis de cette persuasion, de cette conviction qu'ils ont vu l'Église vivante, l'Église militante, l'Église de toujours. Et alors ils retourneront et rapporteront ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, et réjouiront ainsi le cœur des fidèles qui n'ont pas pu venir, mais qui se sont joints à nous par la prière, par la pensée, par le cœur. Mais bien, chers frères, à l'occasion de cette ordination sacerdotale, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser qu'il y a 10 ans, que la fraternité sacerdotale a été fondée. 10 années. L'approbation de Mgr Charrière pour notre fraternité sacerdotale nous a été donnée le 1er novembre 1970. Et voici que nous sommes en 1980 et nous pouvons, en rejetant un regard en arrière, sur cette période de 10 ans, nous ne pouvons que chanter un hymne d'action de grâce. Ce serait méconnaître les bienfaits du bon Dieu, ce serait manquer de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis de Dieu lui-même, vis-à-vis de notre Seigneur, de la très sainte Vierge Marie, de nos saints patrons et en particulier de saint Pédis, que de ne pas aujourd'hui chanter dans nos cœurs un hymne d'action de grâce. Oui, action de grâce. Pour tous les bienfaits, pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, nous en particulier, membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et j'ajouterai même que ceux qui, pour une raison ou une autre, ont cru devoir nous quitter, eux-mêmes ont toujours rendu hommage à la fraternité sacerdotale. Eux-mêmes nous ont toujours écrit, nous nous souviendrons toute notre vie des bienfaits et des grâces que nous avons reçus dans le séminaire d'Écône. Alors nous ne pouvons pas ne pas penser qu'aujourd'hui, nous devons remercier le bon Dieu. Et nous en particulier, chers amis, qui sommes membres de la fraternité sacerdotale, prêtres, futurs prêtres d'aujourd'hui, futurs sous-diacres, et tous les séminaristes ici présents, sans compter tous ceux qui voudraient bien se joindre à nous, ceux d'Amérique, ceux de Buenos Aires, les prêtres de la fraternité qui ont dû rester absents aujourd'hui et demeurer dans leur prieuré, ou dans leur district. Certainement aujourd'hui, ils sont unis à nous de cœur et par la prière. Alors nous remercions Dieu des grâces que nous avons reçues sous la protection de notre saint pape, le pape Pédis, et de la très sainte Vierge Marie, notre bonne mère du ciel. Que de grâces, en effet, mes chers amis, grâce essentielle d'avoir gardé le trésor et les dons que notre Seigneur Jésus-Christ a remis lui-même à son Église. Car c'est cela la fraternité Saint-Pédis, ce n'est pas autre chose. Garder, recevoir et profiter et nous sanctifier par les dons que notre Seigneur Jésus-Christ a remis dans les mains de ses apôtres, que ses apôtres ont légués à la Sainte Église et que l'Église nous a toujours donnés. Mais aujourd'hui, lorsque l'on considère la situation générale des églises, on peut dire des paroisses, des séminaires, des congrégations religieuses, alors ces dons prennent une valeur encore infiniment plus grande. Car nous aurions pu, nous aussi, nous trouver dans ce milieu complètement désarçonné, ce milieu jeté dans la confusion totale, nous aurions pu nous trouver dans ce milieu. Pourquoi le bon Dieu nous a-t-il choisis ? Pourquoi le bon Dieu nous a-t-il fait cette grâce de continuer l'Église et de garder tous ces trésors de l'Église ? Trésor de foi, trésor de grâce, trésor du Saint-Sacrifice de la Messe, trésor des sacrements, trésor inappréciable. Voilà ce que nous avons reçu, mes chers amis, et ce pourquoi nous devons remercier le bon Dieu aujourd'hui. Et je pense pouvoir dire que tous ceux qui se sont joints d'une manière ou d'une autre à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, je pense à nos religieuses de Saint-Michel-en-Brenne, je pense aussi à toutes nos oblates régulières, oblates séculières, je pense à toutes les personnes qui vivent avec nous, dans nos maisons, partout, et qui sont unis profondément à la fraternité, et qui par conséquent partagent aussi les grâces de la fraternité. Et j'aurais garde d'oublier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont gardé également cette fidélité à l'Église, et qui se sont joints à nous, ne serait-ce que parce que cette unité dans la foi de l'Église et dans les sacrements de l'Église et dans le Saint-Sacrifice de la Messe nous a réunis. Je pense à ces monastères dont aujourd'hui certains membres vont recevoir l'ordination sacerdotale. Monastère de Don Augustin, monastère de Don Gérard, ici présent. Je pense également à tous ces monastères, à tous ces couvents de religieuses qui, elles aussi, ont voulu garder la foi, ont voulu garder la tradition, et alors se sont joints aux prêtres qui sont demeurés fidèles et qui tournent aussi leur regard d'une certaine manière vers nous, en nous demandant de les appuyer, de leurs prières, de nos prières, de nos encouragements. Religieuses dominicaines de Brignoles, de Fanjeaux, de Pontcallec, religieuses carmélites, religieuses qui sont ici présentes, religieuses de Mainz, religieuses de Schellenberg qui sont unies à nous dans la prière aussi, si elles n'ont pas pu venir, c'est qu'elles sont cloîtrées. Toutes ces religieuses, et j'en oublie, combien de religieuses sont unies à nous dans la pensée et dans les convictions qu'il faut tenir notre foi de toujours. Alors, toutes ces grâces qui ont été données, toutes ces vocations qui ont pu se réaliser, vocation sacerdotale, vocation religieuse, de frères, de sœurs, vocation active, vocation contemplative, voilà l'Église, l'Église qui continue. Et je pense aussi à tous ces prêtres qui sont ici présents, tous ceux qui nous ont montré l'exemple de la fidélité, qui nous ont encouragés, et qui, je pense, trouvent aussi un encouragement dans l'exemple de la fraternité sacerdotale. Tout cela, c'est l'Église. C'est l'Église qui continue. Et si nous devons remercier le bon Dieu pour les grâces qui ont été données à la fraternité, je pense que nous devons aussi rendre grâce à Dieu pour les grâces qui ont été données par la fraternité. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toutes ces maisons, maintenant réparties un peu à travers le monde, une bonne quarantaine de maisons où se trouvent nos prêtres, et autour de ces maisons, nombreux les lieux de culte qui ont été ouverts et qui sont desservis par nos pères tous les dimanches. Oh, certes, je n'oublie pas tout ce que font aussi ces chers prêtres qui, comme nous, défendent la foi et qui, eux aussi, se dévouent de toute leur âme, de tout leur cœur pour célébrer la Sainte Messe de toujours et donner les sacrements de toujours à leurs fidèles et garder ainsi la foi catholique. Oh non, je ne les oublie pas. Mais je pense surtout à ce qui a été réalisé par la grâce du bon Dieu, par la fraternité sacerdotale Saint-Pilice, dont nous fêtons le 10e anniversaire. Et alors, nous ne pouvons pas nous imaginer les grâces qui ont été répandues. Quand je pense à tous ces mourants qui ont reçu un prêtre qui est venu les aider à bien mourir, qui est venu leur apporter la consolation du sacrement de l'extrême onction, la consolation de la communion, du viatique. Ces âmes ont été consolées, préparées à recevoir la grâce de la persévérance finale. Et tous ces enfants, toutes ces écoles que nous avons, par la grâce du bon Dieu, pu ouvrir ou encourager, autant d'enfants préservés de la contagion du monde et qui ont gardé la foi, et toutes ces familles qui se regroupent par milliers, autour de ces paroisses souvent provisoires, petites paroisses des catacombes, mais où luit la lampe du sanctuaire, petites paroisses, mais toujours bien ornées, ornées de fleurs, toujours bien ordonnées, paroisses, petites paroisses dignes, dignes de ces saints mystères qui sont célébrés, où tout est beau, même dans sa pauvreté, par le soin que le prêtre met à garder fidèlement les rites de l'Église et qui tient à ce que sa chapelle soit belle, belle pour notre Seigneur Jésus-Christ, belle pour les saints anges qui l'habitent, belle pour la très sainte Vierge Marie. Alors les fidèles qui entrent dans ces chapelles, qui entrent dans ces églises, sont consolés, sont réconfortés, ressentent là la grâce du bon Dieu, la grâce du Saint-Esprit, et ils retournent chez eux réconfortés, persuadés qu'ils ont reçu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ en eux par la Sainte Communion, par l'Eucharistie, et ainsi l'Église continue. Voilà, mes bien chers frères, ce qu'est la fraternité. Écoles, prieurés, paroisses en définitive, chapelles répandues dans le monde entier. Et demain, avec la grâce du bon Dieu encore, car tout cela se fait d'une manière presque miraculeuse, demain, ouverture de facultés universitaires à Paris. À vrai dire, moi-même, je suis le premier stupéfait. Je n'en reviens pas. Oh, certes, nous le rêvions, nous souhaitions un jour pouvoir ouvrir, commencer une université par quelques facultés. Et aujourd'hui à Paris, demain peut-être à Rome, après-demain peut-être aux États-Unis, nous voudrions donner la vérité, communiquer la vérité aux esprits qui ne l'ont plus, qui l'ont perdu, aux esprits égarés par les fausses philosophies modernes. Que va devenir demain ce monde s'il n'y a plus d'intelligence connaissant la vérité, connaissant la vraie philosophie, la vraie théologie, la vraie Écriture sainte, et par conséquent connaissant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la vérité, la vie, la voie. Alors quelle joie pour nous de penser que ces jeunes gens, ces jeunes filles qui viendront s'éduquer dans ces facultés seront des piliers de la vérité, seront des lumières de vérité partout où ils seront, et dans des postes probablement importants qui leur permettront d'avoir un rayonnement autour d'eux afin de répandre la vérité. Alors nous remercions encore le bon Dieu qui nous a envoyé lui-même les professeurs dont nous avions besoin. Ce sont les professeurs eux-mêmes qui se sont présentés à nous à Paris et qui nous ont dit « c'est cette année où pour nous ce n'est plus possible ». Où vous nous employez cette année où nous prenons un autre emploi et par conséquent vous ne pouvez plus compter sur nous. Que faire? De bons professeurs, des professeurs convaincus et qui ont dit désormais, après toutes les expériences que nous avons faites, nous voulons être soumis à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Nous voulons enseigner sous l'autorité de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Nous voulons qu'un de vos prêtres soit là pour nous diriger, pour nous conseiller, parce que nous sentons que là au moins se trouve l'Église, là se trouve la vérité. Alors que faire devant cette proposition, malgré les difficultés que tout cela peut représenter, nous avons décidé d'ouvrir ces facultés. C'est que le bon Dieu le voulait. Une occasion unique, extraordinaire. C'est cela que le bon Dieu nous a donné en quelque sorte comme cadeau pour notre 10e anniversaire. Remercions-le. Voilà mes bien chers frères, ce que le bon Dieu a permis de faire à travers la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et alors demain, qu'allons-nous devenir? Eh bien, nous serons toujours les mêmes. Nous n'avons pas à chercher notre route. Nous ne pouvons pas demeurer autre chose que l'Église. Nous ne pouvons pas continuer autre chose que l'Église. Nous ne pouvons pas continuer autre chose qu'à prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, qu'à prêcher la vérité, qu'à enseigner la vérité. Alors demain, eh bien, si le bon Dieu le veut, et je pense qu'il le veut et qu'il le voudra, si le bon Dieu le veut, il nous intégrera dans l'Église officielle telle que nous sommes. Telle que nous sommes. Il n'est pas question de changer, d'aller ni à droite ni à gauche, nous voulons rester l'Église. Et nous voulons rester ce que nous avons toujours été depuis le début de la fraternité, parce que nous n'avons pas d'autre idée que de continuer l'Église. Et par conséquent, nous avons toujours pensé qu'un jour, si le bon Dieu, quand le bon Dieu le voudra, quand il le décidera, eh bien, nous rentrerons dans l'Église officielle, puisqu'on nous a jetés hors de cette Église officielle qui n'est pas l'Église réelle, une Église officielle qui a été infestée de modernisme. Et alors nous avons cru au devoir de la désobéissance, si désobéissance il y a, pour obéir à l'Église de toujours, obéir à tous les papes, obéir à toute l'Église catholique, alors nous avons cru de notre devoir de désobéir à ces cardinaux qui nous demandaient d'adopter en partie les erreurs modernistes. Parce que nous n'avons pas voulu empoisonner nos esprits et nos cœurs par les erreurs qui ont été condamnées par notre saint patron Saint Pédis. Et nous demeurons fidèles au serment antimoderniste, serment que Saint Pédis nous demande de prononcer, demeurons fidèles à cela, et on nous recevra avec ce serment dans les mains. Ou alors nous resterons ce que nous sommes. Et nous sommes persuadés, nous l'espérons, nous prions pour cela, et peut-être, mes bien chers frères, les choses s'arrangeront bientôt. Cette chose qui paraît impossible, d'être reçus comme nous sommes, avec ce que nous faisons, avec ce que nous réalisons, avec notre foi, cela paraît presque impossible, eh bien, le bon Dieu peut faire l'impossible. Et nous avons plus d'espoir que jamais. Nous sommes peut-être plus près que jamais de cette solution, de pouvoir être reconnus officiellement dans la Sainte Église comme fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous faisons. Et alors par le fait même, tous ceux qui, comme nous, ont défendu la même foi, le même saint sacrifice de la messe, les mêmes sacrements, viendront avec nous, seront acceptés avec nous. Cela ne fait pas de doute. Alors nous devons prier aujourd'hui d'une manière toute particulière pour ce résultat. Car vous pouvez imaginer ce que nous serions, le nombre que nous serions ici, si nous n'étions plus persécutés par certains membres de la Sainte Église. Ce n'est pas 5 000, 6 000 personnes, ce serait 20 000, 50 000 personnes qui profiteraient alors des grâces que le bon Dieu nous donne, que la Sainte Église nous donne. Alors que maintenant, ils sont assoiffés, ils perdent la foi. Ils sont désemparés, ils sont abandonnés. Alors nous devons penser à toutes ces âmes et souhaiter par conséquent que cessent ces persécutions injustes dont nous sommes l'objet. Je termine, mes bien chers amis, en m'adressant particulièrement à vous, vous qui allez être ordonné prêtre dans quelques instants, en disant, gardez la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Tout est attaché à notre Seigneur Jésus-Christ. Et rien n'existe sans notre Seigneur Jésus-Christ. Ni rien du monde naturel, et rien du monde surnaturel. Sans Jésus, il n'y a plus rien. Jésus est le Créateur de toutes choses. Jésus est le Rédempteur de toutes les âmes. Sans lui, il n'y a aucun espoir. Sans lui, il n'y a aucun être, aucune existence possible. Alors, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ? Quels sont ses caractères essentiels que vous avez étudiés dans votre théologie? Jésus-Christ, c'est le Sauveur. Jésus-Christ, c'est le Prêtre. Jésus-Christ, c'est le Roi. Voilà les trois attribut essentiel de notre Seigneur Jésus-Christ, par le fait même de son union hypostatique, c'est-à-dire de son union à Dieu lui-même, dans une seule personne. Alors ces trois attributs, Sauveur, Rédempteur, Prêtre, Roi, où sont-ils concrétisés? Où les vivons-nous? Comment les apercevons-nous? Dans la Sainte Messe. Dans la Sainte Messe, notre Seigneur Jésus-Christ est le Rédempteur. Qui pourra nier cela? Le sacrifice de la croix, mais c'est sa rédemption, c'est la rédemption de notre Seigneur. Par conséquent, en offrant votre saint sacrifice de la Messe, vous contribuez à la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. À la rédemption que notre Seigneur Jésus-Christ a accomplie. Prêtre, mais où est-il plus prêtre que dans le saint sacrifice de la messe? C'est lui le prêtre, vous n'êtes que ses ministres. Vous n'agissez que dans la personne du Christ qui est le vrai prêtre. Par conséquent, le sacrifice de la messe, c'est encore notre Seigneur Jésus-Christ dans un de ses attributs essentiels. Et enfin, roi, regnavit aligno Deus. Notre Seigneur a régné par le bois de la croix. C'est là son trône, c'est là sa couronne, c'est là qu'il a conquis le monde et qu'il a droit à la royauté. Alors, c'est aussi dans le sacrifice de la messe que sa royauté éclate d'une manière absolue et nous devons tous être soumis à lui et nous devons tous le révérer, l'adorer, le remercier comme roi. Par conséquent, rédempteur, prêtre et roi, c'est le saint sacrifice de la messe. Et par conséquent, toute votre vie, tous les jours, vous retrouverez notre Seigneur dans ses attributs essentiels. Essentiels. Et vous participerez, pauvres créatures que nous sommes, participez à ce que Jésus-Christ a d'essentiel. Participez à sa rédemption. Participez à son sacerdoce. Participez à sa royauté. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité devant tout le peuple fidèle! Quelle joie pour vous profonde! Et dans quelle humilité vous devez accomplir ces saints mystères! Et avec quelle joie vous devez faire participer aussi votre peuple fidèle de ses attributs, notre Seigneur, par la Sainte Communion, par l'Eucharistie, en donnant Jésus-Christ lui-même! Quelle joie! Rien n'est plus beau que le prêtre distribuant la Sainte Eucharistie. Rien n'est plus grand, rien n'est plus sublime, rien n'est plus riche en vertu, en don, en grâce. Les fidèles attendent cela de vous. Alors soyez fidèles, mes bien chers amis, soyez fidèles à tout ce qui vous a été enseigné ici à Écône et qui n'est autre que l'écho de ce que l'Église a toujours enseigné. Demeurez attachés à votre séminaire. Demeurez attaché à ce qui vous a fait prêtre, demeurez attaché à la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. C'est de cette manière que vous serez véritablement prêtre et qu'ainsi vous continuerez la Sainte Église en attendant de recevoir votre récompense au ciel auprès de votre bonne mère du ciel, mère du sacerdoce, celle qui vous a accompagné ici à Écône chaque jour. Ah, comme nous sommes émus tous les soirs lorsque nous vous voyons agenouillés devant la très sainte Vierge Marie avant de prendre votre repos, vous dites quelques invocations à la très sainte Vierge Marie, vous confiant à elle, lui demandant de vous soutenir, lui demandant de vous aider à de devenir des saints prêtres. Eh bien, désormais, vous voilà prêts à partir, prêts à aller, comme dit notre Seigneur, aller. Enseignez l'Évangile. Mais c'est ce que vous ferez, accompagné de toutes nos prières aujourd'hui, de la prière de vos parents, de vos amis, de tous ceux qui vous aiment et qui vous sont unis ici-bas et dans le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers confrères, bien chers amis et bien chers frères, dans quelques instants, nous procéderons à la consécration des saintes huiles et je voudrais extraire de cette consécration des paroles qui me semblent essentielles à cette cérémonie, dans l'oraison de la consécration de l'huile des infirmes, l'évêque dit « Emite Domine, spiritum tuum sanctum paraclitum in hanc pinguedinem olive. » Envoyez, Seigneur, votre Esprit Saint dans cette huile d'olive. Et dans la magnifique préface que l'évêque chante à l'occasion de la consécration du Saint-Crème, ce sont les mêmes paroles, la même pensée qui est exprimée lorsque l'évêque signe de la croix le Saint-Crème. Que Dieu sanctifie cette créature de l'huile en envoyant son Esprit Saint la remplir de sa force et de sa vertu. Je pense, mes bien chers confrères, surtout vous qui êtes prêtres et vous, chers diacres, qui allez dans quelques mois, s'il plaît à Dieu, devenir prêtres, que nous devons réfléchir beaucoup sur cette sainte et belle réalité. La volonté de Dieu a été de passer par des créatures pour nous rendre la vertu de l'Esprit Saint, pour nous remplir de l'Esprit. Il a voulu, en définitive, s'incarner. Il aurait pu trouver une autre voie. Non, Dieu a décidé de toute éternité qu'après le péché de nos premiers parents, pour nous rendre l'Esprit Saint qui remplissait l'âme de nos premiers parents, il a voulu s'incarner, prendre une chair comme la nôtre, sensible, et une âme semblable à la nôtre. Et cela a eu des conséquences considérables pour notre sanctification. Dieu s'est choisi une mère qui l'a remplie de l'Esprit Saint. Il s'est choisi aussi un père adoptif. Il s'est choisi des apôtres dont il a fait ses prêtres, c'est-à-dire qu'il a consacré aussi par la vertu de l'Esprit Saint et auquel il a donné le pouvoir de continuer son sacrifice. Et il s'est choisi 7 sacrements, des signes sensibles dans lesquels il a infusé l'Esprit Saint. Tous ces signes, toutes ces personnes qu'il s'est choisies, il a voulu qu'elles soient consacrées, remplies de l'Esprit, afin de pouvoir communiquer l'Esprit Saint aux âmes des fidèles qui seront baptisés, qui seront confirmés, qui recevront le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie et les autres sacrements. Voilà la vérité, voilà la réalité, et donc l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit que le Verbe de Dieu a voulu dans sa Sainte Église. Et nous n'avons pas le droit de changer ces choses-là, c'est une chose établie pour toujours par Dieu lui-même. Il s'est donc choisi des prêtres et des objets et des paroles qui sont pleines de l'Esprit Saint et qui doivent nous communiquer l'Esprit Saint. Pourquoi cela ? Parce que Dieu l'a voulu ainsi, mais parce que Dieu nous connaît. Nous sommes des êtres sensibles, nous avons besoin de toucher en quelque sorte ces éléments qui nous donnent l'Esprit Saint, de les voir, de les entendre, de les sentir même, lorsque nous sommes loin des huiles saintes, dans le baptême, dans la confirmation, dans l'extrême onction, dans l'ordre. Et puis il a voulu aussi, certainement, nous demander une grande humilité, nous humilier, nous sommes pécheurs. Ce qui nous a perdus, c'est l'orgueil. Alors il faut reconnaître que les moyens que notre Seigneur Jésus-Christ a choisis pour nous sanctifier sont humiliants pour la nature humaine. Nous sommes en quelque sorte dépendants de ces éléments matériels, dépendants de l'eau pour le baptême, dépendants de ces saintes huiles qui vont être consacrées dans quelques instants, dépendants de la parole du prêtre pour le sacrement de la confession. Et ce n'est pas une petite humilité que le bon Dieu nous demande d'aller confesser nos péchés à une créature semblable à nous, mais qui l'a revêtue de ses pouvoirs, qui l'a revêtue de son Esprit Saint pour effacer nos péchés. Et toute cette pensée de notre Seigneur nous demande par conséquent de nous humilier. C'est aussi avec humilité que nous devons nous présenter pour recevoir le sacrement de l'Eucharistie, nous agenouiller, recevoir sur notre langue le corps sacré de Jésus, En même temps que c'est un don ineffable, c'est aussi l'expression de notre humilité, de notre état de pécheur. Voilà l'esprit de l'Église catholique, l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. De même que Jésus, dans sa nature humaine, a voulu s'humilier jusqu'à la mort de la croix, lui qui aussi a voulu que l'Esprit Saint descende sur lui au jour de son baptême, qu'il manifeste qu'il était rempli de l'Esprit Saint, qu'il était la source de l'Esprit Saint, il a voulu aussi s'humilier. Mais nous ne devons jamais oublier que cette humiliation qui nous est donnée nous comble de l'Esprit de Dieu, nous donne l'Esprit de Dieu. Or, aujourd'hui, d'une manière particulière, nous avons besoin de nous rappeler cela. Parce que nous l'avons vu dans l'histoire et nous le voyons encore aujourd'hui d'une manière particulière. L'homme orgueilleux, plein de lui-même, un désir de refuser en quelque sorte ces moyens que notre Seigneur Jésus-Christ a choisis. Il trouve ça vraiment trop humiliant pour ce qu'il est, lui, homme doté d'une nature spirituelle. Et alors nous avons vu l'homme se révolter contre cette institution de notre Seigneur Jésus-Christ, contre l'Église, contre le pape, contre les évêques, contre les sacrements, et ce fut le protestantisme. On a voulu se libérer de ce qui semblait une humiliation pour la nature humaine et recevoir directement l'Esprit Saint, s'adresser à Dieu directement et que Dieu considère que nous sommes des créatures spirituelles et par conséquent nous pouvons directement recevoir son esprit et ne pas passer par ces éléments matériels ou ces personnes qui nous humilient. Eh bien, une deuxième manifestation de cet orgueil de l'esprit humain aujourd'hui, c'est précisément le charismatisme et le pentecôtisme. C'est le même esprit qui est à la racine de ces mouvements. Et si l'on garde, dans une certaine mesure, les sacrements, on ne voit plus en eux que des symboles qui sont moins humiliants, symboles de la communauté, symboles du partage dans l'Eucharistie. La confession deviendra collective, c'est le péché de la communauté, le péché de la société. Ce n'est plus le péché personnel qu'on est obligé de confesser personnellement et qui nous humilie. Et ainsi de suite, on fera donc des sacrements, des symboles. Et on s'adressera directement à Dieu pour recevoir l'Esprit. C'est là une manifestation de l'orgueil des hommes. Mais je voudrais ajouter, cependant, pour l'utilité de la pastorale que nous avons à accomplir, nous pouvons nous demander, dans une certaine mesure, si la manière dont les prêtres catholiques ont conçu ce qu'était justement le désir de notre Seigneur de passer par ces éléments matériels, par ces cérémonies, par ces rites, par ce saint sacrifice de la messe pour nous donner son esprit, a toujours été bien compris et bien réalisé par les prêtres. N'ont-ils pas eu, parfois, n'avons-nous pas, parfois, tendance de nous arrêter au rite, de nous arrêter à l'exécution de la cérémonie et d'oublier, en quelque sorte, que ce que nous faisons, ce que nous réalisons, ce que nous portons avec nous, les paroles que nous prononçons, sont remplies de l'Esprit Saint. remplis de l'Esprit de Dieu, remplis de la lumière de l'Esprit et du feu de la charité de l'Esprit. Notre religion est vraiment une religion spirituelle. Ce n'est pas parce que notre Seigneur a choisi des éléments matériels que nous devons nous arrêter en quelque sorte à ces cérémonies et à ces rites et penser que notre devoir est terminé parce que nous avons accompli purement et simplement comme matériellement ces rites. N'y a-t-il pas un danger d'accoutumance en accomplissant ces rites, que nous oublions vraiment leur signification profonde et leur effet magnifique, surnaturel, extraordinaire? Alors je me permets, chers amis, rappelons-nous cela, rappelons-nous pourquoi et dans quel but notre Seigneur Jésus-Christ a institué son Église, son sacerdoce. C'est les raisons d'aujourd'hui qui nous le disent. Notre Seigneur a voulu se choisir des prêtres à son service. Et il demande, les raisons, l'Église demande de prier pour que ces prêtres augmentent en nombre afin que l'œuvre de la rédemption s'accomplisse. Eh bien, nous devons nous rappeler précisément que nous sommes des instruments choisis par Dieu pour être les ministres de son esprit, les ministres de l'œuvre de sa rédemption. Rappelons ça à nos fidèles fréquemment, afin qu'ils comprennent aussi la dignité du sacerdoce, la dignité des sacrements, le respect que nous devons avoir pour toutes ces choses matérielles que Dieu a choisies pour nous infuser son esprit. Que l'eau baptismale soit respectée, soit honorée, que le Saint-Crème soit toujours dans des endroits convenables et qui manifestent le respect que nous avons pour ces huiles dans lesquelles, d'une certaine manière, habite le Saint-Esprit. Et à plus forte raison que nous ayons toujours un respect profond pour la Sainte Eucharistie, source de l'Esprit Saint. Ayons du respect pour nous-mêmes, prêtres, respect pour notre personne, consacrée par l'imposition des mains par lesquelles nous avons reçu l'Esprit Saint, consacrée par l'huile sainte qui a coulé sur nos mains. Ayons donc ce respect des sacrements et apprenons par ce respect, par ces manifestations de respect, apprenons aux fidèles la grande valeur des sacrements et que ainsi eux-mêmes s'approchent dans des dispositions d'humilité, de confiance, d'espérance, de charité à recevoir ces sacrements de nos mains afin qu'eux aussi soient transformés dans le feu de l'Esprit Saint, dans le feu de l'amour, dans le feu de la charité. Voilà ce que doit être notre rôle sacerdotal. Et cette consécration des Saintes Huiles me semble être une occasion pour nous de nous rappeler le choix extraordinaire que notre Seigneur et que la Sainte Église ont fait de ces Saintes Huiles, et que nous devons toujours utiliser avec un grand respect. Demandons à la Mère de Jésus qui a été remplie du Saint-Esprit de nous aider à mieux comprendre que notre ministère est un véritable ministère spirituel qui communique l'Esprit Saint, qui communique l'Esprit de Dieu aux âmes vers lesquelles nous sommes envoyés, afin de les transformer elles-mêmes dans l'Esprit Saint et les préparer à la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et bien chers amis, mes bien chers frères, nous voici de nouveau réunis pour une cérémonie d'ordination. C'est toujours avec une certaine émotion que nous assistons à ces cérémonies, que nous y participons, et en particulier à cette cérémonie réalisée à la veille de la Pentecôte. S'il y a en effet une occasion pour les âmes de recevoir l'Esprit Saint, c'est bien l'ordination et l'ordination au diaconat. Vous savez, mes chers amis, deux modèles en particulier. Saint Étienne et Saint Laurent, qui ont été eux aussi remplis du Saint-Esprit. C'est l'Écriture qui le dit pour Saint Étienne. Il était rempli de l'Esprit Saint. Et par sa lumière, l'Esprit Saint inondait l'intelligence et l'âme de Saint Étienne. Et ainsi, il affirmait avec force, avec courage, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ à l'encontre de ceux qui s'opposaient à cette divinité. Et alors il a subi le martyr, et tandis qu'il subissait son martyr, sa foi s'est comme transformée déjà en vision béatifique, et il affirmait déjà voir notre Seigneur Jésus-Christ dans la gloire du Père. Modèle pour vous, mes chers amis, que l'Esprit Saint qui va descendre en vous encore plus abondamment, avec tous ses dons à l'occasion de cette ordination au diaconat, vous donne aussi cette foi profonde, cette foi vivante qu'avait Saint Étienne pour que vous proclamiez à la face du monde la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, vous tournerez vos regards aussi vers ce diacre du IIIe siècle, Saint Laurent, lui aussi rempli du Saint-Esprit, enflammé du désir de venir en aide à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui sont dans l'indigence, distribuer ses biens aux pauvres. Il était chargé de distribuer par le pape tout ce que l'Église pouvait donner à ceux qui étaient dans l'indigence. Et par là aussi, il a subi le martyr. Parce que, rempli du Saint-Esprit, il manifestait la charité de notre Seigneur devant l'égoïsme de ses bourreaux qui auraient voulu profiter des richesses de l'Église. Il a souffert le martyr horrible de la grille ardente. Mais l'ardeur de sa foi, l'ardeur de sa charité était encore plus grande que le feu qui le brûlait à l'extérieur. Grand modèle également pour vous. Modèle du détachement, détachement total. Vous aurez aussi des responsabilités plus tard, responsabilités matérielles. Ne vous attachez pas au bien de ce monde. Soyez aussi généreux pour les pauvres, sans doute, mais surtout pour les pauvres spirituels. Pour ceux qui souffrent de la faim, et de la soif dans leurs âmes, pour tous les pécheurs, pour tous ceux qui viendront à vous pour demander la grâce de la charité, la grâce de la rédemption par les sacrements qui descendront par vos mains, par vos paroles. Alors demandez aujourd'hui cette grâce, et nous la demandons pour vous, tous ceux qui sont ici présents, parents, amis, vos maîtres qui ont tant d'affection pour vous, demande pour vous que cet Esprit Saint descende en vous avec l'abondance de tous ses dons, des phases de vous, des diacres qui suivent les modèles que l'Église nous a donné, Saint-Étienne et Saint-Laurent. Et vous avez particulièrement besoin de cet Esprit Saint aujourd'hui. Vous aurez à prêcher le règne de Dieu. Lorsqu'on prend connaissance dans les Écritures des dernières paroles de notre Seigneur aux apôtres avant de monter au ciel, et puis des premières aussi, des actes des apôtres après la descente du Saint-Esprit sur eux, on s'aperçoit que l'objet, tout l'objet de notre Seigneur Jésus-Christ, l'objet de sa révélation, l'objet de l'apostolat des apôtres, c'est le Regnum Dei, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. C'est bien ce que notre Seigneur nous a demandé dans sa prière, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ça l'objet de notre prédication. Or, ce règne de Dieu, qui était évident, efficace, pendant des siècles, siècle de chrétienté, siècle où notre Seigneur vraiment était le roi, dans les cités, dans les familles, dans les individus. Oh, certes, tout n'était pas parfait. Il y avait bien aussi et toujours le péché et les pécheurs. Mais on peut dire que le royaume de notre Seigneur était agréé par tous, par ceux qui présidaient aux destinées des cités et par ceux qui étaient les pères de famille, les chefs de famille, par ceux-mêmes qui avaient des professions, qui consacraient leurs professions à des saints, et par les individus, d'une manière générale, les vocations en était une preuve, les familles chrétiennes en étaient une preuve également. Or, un dessein satanique est venu troubler ce règne de notre Seigneur. Et non seulement le troubler, mais a eu pour intention, pour but, de le détruire de fond en comble. Fond en comble. C'est bien ce que dit le pape Léon XIII dans son encyclique Humanum Genus, parlant de la franc-maçonnerie, il dit « Leur but est la destruction totale des institutions chrétiennes. » Destruction totale des institutions chrétiennes. Et en effet, patiemment, résolument, avec une malice consommée, ils arrivent peu à peu à leur but. Et l'on s'aperçoit que d'année en année, ils arrivent à détruire les institutions chrétiennes. Mais alors on s'attendrait, évidemment, à une résistance acharnée de ceux qui croient au règne de Dieu, de ceux qui croient à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais hélas, partout des traîtres, partout des abandons, partout des compromissions. le règne de notre Seigneur sera encore acceptable à la rigueur dans les familles, à la rigueur dans les paroisses, dans les personnes privées, mais plus extérieurement, plus dans la cité, plus dans les professions. C'est la sécularisation, c'est la laïcisation. Voilà le projet infernal de Satan. Le grand moyen d'arriver à la destruction du règne de notre Seigneur et des institutions chrétiennes, c'est la laïcité et la sécularisation des États, des sociétés, et par le fait même, nécessairement, c'est une conséquence logique et comme implacable, sécularisation, laïcisation des familles. Et non seulement des familles, mais des séminaires, mais du clergé. Et voilà que dans le clergé, dans l'Église, des hommes se lèvent en faveur de la sécularisation. Des chrétiens comme Maritain estiment que la sécularisation est une évolution nécessaire et comme un progrès qui doit arriver avec la science, avec le développement des sciences humaines et sociologiques. Et puis ce sera Teilhard de Chardin, un prêtre, qui fera aussi de cette laïcisation, de cette sécularisation, l'objet de ces considérations, qui seront suivies dans les séminaires, par des prêtres, par des professeurs de séminaires. Alors, à quoi peut-on s'attendre si même ceux qui desservent l'autel, ceux qui desservent notre Seigneur, ceux qui ont été ordonnés pour le règne de Dieu, pour le règne de notre Seigneur, sont aussi partisans de la destruction du règne de notre Seigneur dans la société, comment peuvent-ils être encore des prêtres? On ira plus loin. Ce ne sont pas seulement des prêtres. Ce ne sont pas seulement des individus qui seront en faveur de la sécularisation et de la laïcisation. Mais c'est un concile. Oui, le concile Vatican II. Le concile Vatican II, par son décret de la liberté religieuse, instaure pratiquement la laïcisation et admet officiellement les États laïcs et les États sécularisés. Que notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus dans la société, qu'il règne à la rigueur encore dans les âmes, dans les individus, dans les familles, dans les paroisses, mais plus dans la société. Cela n'est plus possible, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Le règne de notre Seigneur dans la société n'est plus possible. Ce n'est pas ce que disait le pape Pie XI dans son encyclique Quas Primas sur la royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle magnifique encyclique! Nous devrions la lire et la relire souvent pour voir quel est notre devoir. Demandons à la Mère de Jésus de nous aider à mieux comprendre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.